CHOQ avec les apatrides anonymes. Marie-Ève au micro pour vous souhaiter la bienvenue à cette émission du 10 mars 2022. Les apatrides anonymes, c'est votre rendez-vous bimensuel pour un regard alternatif sur les actualités nationales et internationales relatives à l'immigration, au racisme, à l'extrême droite, aux abus policiers et aux questions autochtones. Je suis évidemment toujours fidèlement accompagnée de Simon.
Yeah, allô.
Et Mathieu.
Bonsoir.
Qu'on retrouvera tous les deux un peu plus tard. Donc, au programme aujourd'hui, on a des nouvelles en provenance de l'Algérie, de l'Afghanistan et de l'Irlande. On va aussi parler avec Simon des mouvements migratoires suscités par l'intervention militaire de la Russie en Ukraine. On va parler des dernières actualités Québec-Canada sur l'immigration avec Mathieu et sur les abus policiers avec Simon. Mm-hmm. Et on va finir en beauté avec notre agenda antiraciste. Et c'est moi qui vais avoir l'honneur de lancer le bal dans quelques secondes avec une mise à jour des opérations de sauvetage en Méditerranée. L'émission est déjà finie, mais non, c'est pas vrai.
On se revoit dans deux semaines.
C'est inversé.
C'était pour vous mêler. Bon, évidemment, avec la situation en Ukraine, qui, faut le dire, là, désastreuse et le mot est faible, puis donc, comme je le disais en intro, on va en parler avec Simon tout à l'heure, il y a d'autres drames humains quand même dans différentes régions du monde qui sont passés sous silence. C'est le cas de la Méditerranée où les opérations de sauvetage se poursuivent. À la mi-février, l'Ocean Viking a secouru pas moins de 247 personnes migrantes au cours de 5 opérations de sauvetage en 3 jours. Parmi ces personnes-là, 54 étaient mineurs, dont seulement 2 étaient accompagnés. 4 des opérations ont eu lieu dans les eaux maltaises et la dernière a eu lieu au large des côtes libyennes. Après avoir passé une semaine sur le navire de l'ONG SOS Méditerranée, les personnes secourues ont été débarquées à Pozzallo, en Sicile. Et pendant ce temps-là, c'est le Sea-Watch 4 qui a pris la relève en Méditerranée centrale en portant secours à 129 naufragés répartis dans 2 embarcations. Et quelques jours plus tard, c'est près de 600 migrants qui ont été secourus en une seule nuit par les gardes-côtes italiens au large de la Calabre. Le corps d'une personne décédée depuis plusieurs jours a été récupéré dans l'embarcation. 59 mineurs, dont un grand nombre non accompagnés, faisaient partie des rescapés. Une personne a aussi dû être transférée en urgence à terre en raison de son état de santé. Et dernier drame en liste, la mort d'au moins 50 migrants dans un naufrage au large des côtes libyennes. Depuis le naufrage, il y a une douzaine de corps qui se sont échoués sur les côtes. C'est l'ONG Alarm Phone qui a signalé le naufrage. Il y en a eu quelques-uns là, depuis les derniers mois. 28 corps de migrants, fin décembre, c'est ça. 28 corps de migrants, dont 2 femmes et un bébé, avaient été retrouvés sur les plages d'Al Alous, à 120 km à l'ouest de Tripoli. Le 17 décembre, donc juste un peu avant, 102 personnes ont aussi perdu la vie en mer au large de Surman, à l'ouest de Tripoli aussi. Et le lendemain, c'est 61 corps qui ont été retrouvés sur un canot intercepté par les gardes-côtes libyens, là encore au large de Sabratha. Donc, on le voit, la mer Méditerranée est vraiment une des routes migratoires les plus meurtrières, en raison, entre autres, des conditions météorologiques, mais aussi du fort trafic de bateaux de toutes sortes et, faut le dire, à cause, évidemment, des fameux gardes-côtes libyens. D'ailleurs, dans la nuit du 18 au 19 février, ils ont tiré sur une embarcation d'environ 80 migrants, dont des femmes et des enfants, et ils ont fait 1 mort et 3 blessés. L'embarcation dans laquelle ces personnes migrantes se trouvaient essayait d'échapper aux autorités libyennes qui tentaient de les intercepter pour les ramener dans le pays.
Tu veux dire, ils tirent à balles réelles sur,
yes,
sur les... Ah, oh, mon Dieu.
Okay. Oui, c'est, et ça non plus, c'est pas la première fois. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, réclame l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur cet événement-là et sanctionner les responsables. De leur côté, sans grande surprise, les autorités libyennes nient en bloc les faits et qualifient les déclarations de l'OIM d'absurdes. Selon les pilotes volontaires, qui sont ceux qui patrouillent en fait au-dessus là, de la Méditerranée centrale, les manœuvres des Libyens pour intercepter les canaux de migrants en mer sont de plus en plus agressives. Ils les qualifient même d'opérations de type commando. Mmh. Selon l'OIM, si on récapitule, là, selon l'OIM, il y a 10 570 personnes qui sont arrivées en Europe en prenant la mer depuis le début de l'année. Au moins 165 sont mortes au cours de leur tentative. Si on ajoute ceux qui ont emprunté la voie terrestre, c'est un total de 11 986 migrants qui sont débarqués en Europe depuis janvier et au moins 222 qui sont morts sur la route. Je termine en rappelant que les navires humanitaires sillonnent une partie très, très limitée, en fait, de la mer Méditerranée. La présence de ces ONG-là est loin d'être une garantie de secours pour les migrants-migrantes qui veulent tenter la traversée depuis les côtes africaines, principalement. Beaucoup d'embarcations passent donc inaperçues dans l'immensité de la mer et beaucoup de canaux sombres aussi sans avoir été repérés. Donc, tous les chiffres que je vous ai donnés, évidemment, sont à prendre avec un grain de sel, si on veut. Et toi, Simon, l'Ukraine, où la situation n'est pas plus rose?
Ben, par où commencer, mon Dieu? C'est un peu... tu disais tantôt qu'on essaie de donner un point de vue alternatif. Là, c'est vraiment mur à mur dans les médias partout. Peut-être essayer de se concentrer surtout sur les enjeux migratoires, mais évidemment, ça touche sur d'autres enjeux. En deux semaines, déjà plus de 2,2 à 2,4 millions de réfugiés d'Ukrainiens qui sont sortis du territoire. Donc, chiffre qui exclut les déplacés internes, dont le nombre actuel, on ne le connaît pas vraiment. C'est en millions. Avant la crise actuelle commencée, ben, il y a exactement deux semaines, l'Ukraine était déjà avec 1,6 million de déplacés internes, le septième pays du monde, ben, derrière évidemment des pays comme le Yémen ou la Syrie, avec le plus grand nombre de déplacés internes, surtout en raison des conflits dans l'Est et dans le Sud, dans le Donbass, dans la région de Donetsk et en Crimée, parce que c'est la guerre depuis 2014. Donc, parfois, on l'oublie. On a des fois l'impression que ça a commencé il y a deux semaines. Donc,
non, ça faisait quand même longtemps que ça se tramait.
C'est ça. L'offensive totale russe a commencé il y a deux semaines, mais il y avait des conflits plus régionaux. Kharkiv, qui est la deuxième ville ukrainienne dans l'Est, elle est depuis 2014 justement un très important carrefour migratoire avec plein d'associations et d'infrastructures d'accueil sur place. Mais là, les besoins se déplacent beaucoup vers le centre et l'ouest du pays et aussi vers les pays d'accueil ou de transition, donc la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, mais surtout la Pologne. Le nouveau carrefour migratoire principal dans le territoire ukrainien, c'est plus Kharkiv, mais c'est Lviv ou Louviou. Il y a différentes façons de le prononcer en français. C'est proche de la frontière polonaise, ville de 700 000 habitants qui reçoit 50 000 nouveaux réfugiés par jour.
Par jour?
Oui, qui arrivent principalement à pied, en autobus ou en train.
Ouais.
En Pologne, on est rendu, ça c'était des chiffres d'avant-hier, à 1,3 million de réfugiés en deux semaines. C'est vraiment énorme. Il y en a qui restent sur place dans les zones bombardées, ce qui est pas évident, mais il y en a qui sont juste pas capables de se déplacer, donc des personnes trop vulnérables et leurs proches qui veulent rester pour prendre soin d'eux. On pourra pas se fier au corridor dit humanitaire dont le but est à la fois de permettre l'évacuation, mais aussi dans l'autre direction, normalement, là, d'apporter médicaments, nourriture, etc. aux gens dont je parlais, qui sont plus vulnérables. Il y en a 4 ou 5 actuellement. Je pense qu'il y en a un cinquième qui s'est ajouté hier. Celui qui part de Kiev aboutit en Biélorussie, qui est un allié de la Russie, et les autres, complètement dans l'Est, finissent directement en Russie. Donc, c'est un peu cynique de la part de Moscou. Évidemment, ouais. Il y a très peu de gens qui les empruntent. Et même s'ils le voulaient, ben, les cessez-le-feu dans les corridors humanitaires sont même pas respectés. Et il faut déjà être capable de rejoindre le corridor en question à partir de sa proposition. qui peut être bombardé, et le point de départ des corridors militaires sont dans des villes assiégées actuellement.
Oui, comme Mariupol, entre autres, et d'autres.
Oui, entre autres, c'est ça. Les projections, et plusieurs, et quatre autres villes à peu près qui sont dans la liste, donc ouais. j'ai pas la liste ici, là. Les projections du Haut Commissariat pour les réfugiés prévoient jusqu'à 7 millions de déplacés dans les prochaines semaines, ce qui fera en sorte de dépasser ce qu'on a vu sur plusieurs mois en Syrie, en Afghanistan ou au Venezuela. Et ça, c'est seulement si le conflit se limite à la région et ne prend pas une ampleur plus importante. Les réfugiés qui quittent le territoire ukrainien se rendent surtout en Pologne, puisqu'au sud, c'est la mer avec des ports qui sont très convoités par l'armée russe. Au nord et à l'est, ben, c'est la Russie et le Bélarus. Donc, quoique, il y a aussi des gens, des russophones surtout, mais pas seulement, qui fuient vers la Russie, où c'est plus tranquille quand même qu'en Ukraine. Au Canada, selon l'Agence des services frontaliers, il y aurait à peu près 1000 réfugiés ukrainiens qui seraient déjà arrivés.
OK.
Là, j'ai différents sujets en vrac parce que, comme je dis, c'était difficile d'avoir un point de vue unique, un fil conducteur. Donc, je sais pas si je dois choisir parler de whataboutisme, peut-être. Je sais pas si vous connaissez l'expression.
Ben
faire
non.
du whatabout, ça veut dire ah, mais là, tu t'émeus trop de l'Ukraine, mais la Palestine, tu sais.
Ah ouais, OK.
Donc, on nous rappelle beaucoup d'une certaine gauche, je dirais, ces temps-ci, qu'on a des réactions à géométrie variable, ce qui est vrai. On va ignorer beaucoup de conflits, par exemple, en Afrique subsaharienne, sur la péninsule arabique, en Asie du Sud, ou l'exemple de la Palestine qui est souvent revenu. C'est vrai que l'Ukraine occupe 100% de l'espace actuellement, on se le cachera pas. C'est clair qu'on a un biais occidental ou eurocentriste, surtout qu'il y a des très grandes diasporas ukrainiennes à travers le Canada, le Québec, Montréal, entre autres. Par contre, je pense
oui,
que...
Oui, puis on entend même un certain discours en Europe qui dit « Ah, mais c'est correct de laisser rentrer les réfugiés ukrainiens parce qu'ils sont comme nous, sont blancs, tu sais. » Fait que...
Ben ça, c'est carrément du racisme, ça. Là aussi. Ça, on se le cachera pas. Ce qui marque beaucoup les gens, pourquoi ça prend autant de place, je pense que c'est assez clair que c'est pas parce que la souffrance en Ukraine est plus vive que là où il y a d'autres conflits. C'est que l'enjeu géopolitique est quand même majeur. Le potentiel même de guerre mondiale, on sait pas ce que ça peut donner. Toutes les grandes puissances militaires et économiques actuellement, on les sent extrêmement nerveuses. Même la Chine a l'air de marcher sur des œufs. Chine, d'ailleurs, qui, avec Israël et Turquie, serait pressentie pour arbitrer un règlement du conflit, donc des régimes autoritaires et ou des forces d'occupation pour régler ce conflit, je sais pas. Donc, non à l'invisibilisation des autres conflits armés dans le monde. Merci aux gens de rappeler qu'il y en a d'autres, effectivement. Faut,
ouais.
Faut continuer d'en parler. On va le faire dans l'émission, puis dans les prochaines émissions aussi. Il y a d'autres populations qui souffrent autant que les Ukrainiens, de manière même plus durable dans le temps. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons qui inquiètent que j'ai nommées un peu tantôt. Là, j'ai le choix de sujet parce que on veut vous parler d'autres choses. Donc, réaction au Québec, réfugiés noirs et LGBTQ en Ukraine, résolution de l'ONU, les nazis. De quoi je parle, Marie-Ève? Je te laisse choisir. Là.
Ben, rapide.
Réaction au Québec. Réaction au Québec. Voilà. Je fais ça rapidement. Réaction. D'ailleurs, qui en dit un peu long sur nous-mêmes, tu parlais de certains pays européens qui disent oui, il faut accueillir plus. Bon, les programmes spéciaux sont pas encore en place, mais le discours officiel à Québec et à Ottawa, on annonce un accueil de réfugiés pratiquement illimité. Même si Ottawa refuse pour l'instant de lever l'obligation d'avoir un visa, ce qui n'est pas facile quand les consulats et les ambassades sont bombardés chez toi, avec parfois plus d'Internet ni d'électricité. Ce qu'en dit long aussi, c'est le contraste dans l'opinion publique ou certains éditorialistes là, sur les réfugiés afghans ou syriens, par exemple. On appelait ça un cheval de Troie islamiste, ou le chemin Roxham, qui était une passoire à haïtiens à colmater. Là, avec un potentiel d'immigration ukrainienne blanche et chrétienne, bien, ça se tient plutôt tranquille dans l'Empire poubelle actuellement. Le jupon blanc dépasse un peu. je parlerai de nazis une autre fois. Les craintes qu'on a pour les réfugiés africains qui vivent la discrimination dans les transports, dans les corridors humanitaires,
là-bas, ouais, c'est
que la belle solidarité polonaise, on leur ferme les portes carrément. Ouais. Donc, c'était très inquiétant.
Parfait. Ben merci, Simon, d'avoir mis la table comme ça pour notre premier tour
première
ukrainien.
Prise de parole,
ouais,
mettons, sur ce gros sujet-là.
On va y aller en deux, trois petites notes de musique pour retrouver Mathieu de l'autre côté de ce pont musical. pour les apatrides anonymes sur les ondes de choc.ca. Alors, petit changement de voix qui vous attend. C'est Mathieu, donc, qui vient de se joindre à moi et qui va nous parler de l'Algérie.
Oui. J'étais déjà là dans la console, à la console, mais j'ai pas intervenu dans vos micros très, très intéressants et très fournis.
Hein? N'est-ce pas?
Tout à fait. L'Algérie, ben oui, on n'en parle pas régulièrement.
Non.
C'est pas des enjeux de racisme en tant que tel dont je vous parle aujourd'hui, mais c'est plus sur la situation politique et sociale là-bas. Algérie, donc, la répression se durcit. Vous en avez entendu parler dans la dernière année, sûrement par-ci, par-là. 3 ans après l'émergence du mouvement protestataire du Irak, qui organisait chaque semaine des manifestations pacifiques massives pour réclamer des réformes politiques majeures, les autorités maintiennent en détention actuellement au moins 280 activistes. On parle de plus de 330 dans d'autres sources, inculpés ou condamnés sur la base d'accusations vagues. Certains font l'objet d'accusations de terrorisme, évidemment, et d'atteinte à l'unité nationale. Leur nombre a grimpé en flèche au cours de la dernière année, alors que les autorités ont également pris pour cible des associations, des partis politiques, des défenseurs des droits humains et des journalistes, évidemment les classiques. On rappelle, le 22 février 2019, des millions d'Algériens ont défilé dans les rues d'Alger et d'autres villes pour exprimer leur opposition à un cinquième mandat de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika qui est décédé depuis. Les manifestants du Irak, qui veut dire mouvement en arabe, ont obtenu la démission de Bouteflika en 2019, mais en avril 2019. Mais plus tard cette année-là, quand le mouvement s'est opposé à la tenue d'une élection présidentielle sans que des réformes aient eu lieu, les autorités ont commencé à arrêter les personnes perçues comme les figures du mouvement. La répression s'est intensifiée après l'élection du président Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019, bien que les manifs se sont interrompus en mars 2020 à cause de la pandémie. Selon le Comité national pour la libération des détenus, récemment, au moins 40 personnes ont commencé une grève de la faim en prison. La plupart de ces grévistes sont en détention préventive et attendent leur procès depuis des mois. En juin 2021, le président Tebboune a amendé le code pénal élargissant la définition déjà exagérément large de la notion de terroriste pour y inclure toute action ayant pour objet, et j'ouvre les guillemets, d'œuvrer ou inciter par quelque moyen que ce soit à accéder au pouvoir ou à changer le système par des moyens non constitutionnels ou de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'inciter à le faire par quelque moyen que ce soit. Des exemples de répression, les autorités ont arrêté Abdelkrim Zeguilesh, un activiste qui dirige la station de radio Sarbacane à Constantine. Il est accusé d'utilisation des technologies de l'information pour diffuser des idées terroristes en lien avec ses publications Facebook et ses déclarations dans les médias. C'est un journaliste, hein? Le Conseil d'État a ordonné la suspension temporaire des activités du Parti socialiste des travailleurs et la fermeture de ses locaux. C'est suite à le ministère de l'Intérieur l'accuse de ne pas avoir tenu son congrès annuel comme l'exige la loi.
Méchant garçon!
Mais ils l'ont fait depuis, d'ailleurs. Ils sont toujours suspendus. Les deux partis d'opposition dits laïcs, le Mouvement démocratique et social et le Rassemblement pour la culture et la démocratie, sont également dans le viseur. Le RCD a reçu une mise en demeure du ministère de l'Intérieur l'accusant d'infraction sur les partis politiques en ayant organisé des activités en dehors des objectifs stipulés dans sa loi fondamentale. Un tribunal a dissous le Rassemblement Action Jeunesse, une organisation pour la jeunesse, à la suite d'une plainte selon laquelle ces activités étaient contraires aux objectifs définis par la loi sur les associations. Donc, c'est la bureaucratie, la répression bureaucratique, administrative, juridique. Et le RAJ, en passant, le Rassemblement Action Jeunesse, est une organisation majeure créée en 1992 pour promouvoir les activités culturelles, les droits humains et les valeurs des citoyens. Écoute, c'est quand même pas pire. Je cite un activiste, « Nous assistons plutôt à des attaques contre les droits de base, comme le droit d'expression, de réunion, d'association, acquis depuis les fameuses révoltes, les émeutes de la fin de 1988, qui avaient appelé à l'époque à la libéralisation du régime et qui l'avaient fait un peu. » Et peut-être vous dire aussi qu'avec la répression actuelle, le gouvernement Tebboune cherche ainsi à réduire le potentiel de résurgence du mouvement après la pandémie.
Ben oui, c'est qu'il met le couvercle dessus. Là.
Exactement, pour que ça recommence. Et depuis, il a paradoxalement décrété le 22 février Journée nationale en 2020, à la veille de son premier anniversaire, dans une tentative d'asseoir son autorité et sa légitimité sur la base de ce mouvement, mais sans succès. Il veut faire une journée nationale de libération, de je sais pas trop quoi. Puis peut-être vous dire en terminant, Marie-Ève, que ici, en lien avec ça, Lazare Zouaimia, un citoyen algéro-canadien, a été arrêté à l'aéroport de Constantine le 16 février, alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour revenir à Montréal. Il est accusé de promotion d'actes terroristes par le biais de moyens technologiques, donc publications sur les réseaux sociaux. Il a participé à Montréal avec des centaines d'autres Algériens aux manifs du Irak là, dans les dernières années à Montréal. Et pour sa famille, on s'en prend à lui parce qu'on veut en faire un exemple, parce qu'aujourd'hui, on dit que les noyaux qui résistent et qui continuent à activer le Irak se trouvent beaucoup dans la diaspora, un peu partout dans le monde. Donc, voilà pour l'Algérie. Une petite mise à jour. Je me suis inspiré d'un texte de Human Rights Watch, entre autres, là-dessus. Puis, le 22 février de cette année, là, il y a deux semaines, ben, il n'y a pas eu grand-chose pour les trois ans. Et il n'y a pas eu beaucoup de manifs non plus.
Non.
Fait que ça a l'air que ça va être difficile les prochains mois.
Ben merci Mathieu.
Fait plaisir.
On te retrouve un peu plus tard. En attendant, on va aller en musique et préparez-vous à groover.
Thank you.
écoutait les Scavengers, un groupe ska, hein, ça le dit.
Entre autres.
De Delhi, en Inde, et la pièce Bad Cat Spray. C'est un single qui est sorti en juin 2021, mais la version que vous avez entendue a été enregistrée lors d'un concert donné en 2020 pendant le confinement.
C'était très bon.
On se tourne maintenant vers l'Afghanistan. Question de rester un peu dans les mêmes thématiques, où le gouvernement taliban a annoncé en février qu'il autoriserait plus les évacuations d'Afghans qui souhaitent quitter le pays tant que la situation de ceux et celles qui sont déjà évacués à l'étranger s'améliore pas. C'est que le porte-parole du régime taliban a déclaré avoir reçu des informations faisant état de milliers d'Afghans, je cite, « vivant dans de très mauvaises conditions au Qatar et en Turquie ». On rappelle que plus de 120 000 Afghans et binationaux ont été évacués jusqu'au 31 août dernier, date du départ d'Afghanistan des derniers soldats américains. Des centaines d'autres personnes ont ensuite été autorisées à quitter le pays par avion, mais la dernière évacuation officielle par voie aérienne a eu lieu le 1er décembre. Des évacuations occasionnelles, par contre, ont toujours lieu par la route via le Pakistan. Deux semaines avant cette annonce-là, la Commission danoise pour l'asile a décidé que les ressortissants afghans déboutés du droit d'asile pourraient être renvoyés dans leur pays parce que, selon la Commission, la situation s'y est suffisamment améliorée. Je sais pas trop c'est quoi.
Où ça, en Afghanistan?
Oui.
Oh, OK.
Ce n'est pas la première fois que le gouvernement danois, qui, je le rappelle aussi, défend une politique zéro réfugiés, adopte une telle position. Il l'avait fait déjà en 2020 pour les réfugiés syriens. Donc, c'est ça.
Bienvenue.
C'est ça. À la suite de la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans, le Danemark a évacué 907 personnes. Bon, des employés des services danois en Afghanistan et leurs familles. Mais selon les chiffres de l'immigration publiés par le quotidien danois Politiken, 6 mois plus tard, seulement 256 d'entre elles ont obtenu une protection. Ça veut dire que potentiellement, il y aurait environ 650 personnes qui pourraient être envoyées en Afghanistan. Puis, selon la loi danoise, une fois les possibilités d'appel épuisées, ben les personnes déboutées ont jusqu'à 3 mois pour quitter volontairement le pays, avant d'être placées en centre administratif de rétention ou d'être expulsées.
Oui.
Et si on revient en sol québécois, question de mettre la table pour toi, Mathieu, la province peine à accueillir les 300 réfugiés afghans qu'elle avait s'était engagée à recevoir.
Ah, juste 300?
Au Québec, oui.
Oh là là.
Selon des chiffres du MIFI, à peine 89 se sont installés au Québec dans le cadre du programme spécial fédéral. Mais pour toute l'année 2021... Hormis ces personnes-là, 232 Afghans ont été admis comme réfugiés dans la province mais par l'entremise de demandes de parrainage privé déposées au cours des années précédentes.
Okay.
Mais si on compare ici aussi là avec l'opération humanitaire menée pour les Syriens et Syriennes en 2015-2016, ce sont plus de 5000 réfugiés qui avaient été accueillis par le Québec. Fait que là, tu sais, quand même, c'est une méchante différence.
Oui.
Puis, quant au gouvernement canadien, ben il y a encore une fois seulement 7885 Afghans qui sont arrivés au pays sur les 40 000 que le gouvernement s'est engagé à accueillir. Bon, 40 000 sur 2-3 ans, là, mais quand même.
Mm-hmm.
Alors voilà, c'est la table est mise pour toi, Mathieu.
Ben merci pour la passe. Écoute,
la
passe dans les patins. Non, non, c'est une blague.
J'ai mieux visé que ça quand même.
Je vais vous parler du fameux projet de loi 96. Je l'évoquais un peu quand j'ai parlé en début d'année des Autochtones. Mais là, c'est pour plus la question des immigrants, des réfugiés. C'est la réforme de la loi 101, là, pour situer tout le monde, là, qui sont au Québec ou ailleurs. Donc, travailleurs qualifiés, gens d'affaires, réfugiés ou demandeurs d'asile, tous les immigrants qui arriveront au Québec feront face prochainement sans distinction à une nouvelle règle. L'administration publique ne leur répondra qu'en français et les servira qu'en français. Cette disposition du projet de loi 96 vient d'être adoptée en commission parlementaire il y a quelques semaines, malgré les critiques exprimées et l'abstention des élus libéraux et solidaires, entre autres, à l'Assemblée nationale. Concrètement, les fonctionnaires québécois ou encore les organismes en lien avec le gouvernement, ça va être à voir pour entre autres les groupes communautaires, devront répondre uniquement en français à tous les nouveaux arrivants. Ces derniers mois, différents experts et organismes ont tenté de convaincre le gouvernement Legault de revoir l'article 15 de son projet de loi. Le gouvernement assure avoir pris les devants, je cite une porte-parole du ministre Hollin Barrette. L'administration aura une marge de manœuvre pour les situations particulières qui nécessiteraient l'usage d'une autre langue que le français avec les personnes immigrantes pendant les 6 premiers mois suivant leur arrivée.
Genre, je parle pas du tout le français, hein?
Non, c'est ça. Mais en plus, c'est que des situations particulières. Mais bon.
Vous allez voir, je vais vous en parler. Ce délai de 6 mois est cependant ridicule, déplore plusieurs organismes. Une telle exigence est néfaste à l'intégration des plus vulnérables, comme les réfugiés et les demandeurs d'asile. C'est assez unanime comme critique en général, à part peut-être certains nationalistes québécois. Les membres de cette population sont déjà déboussolés en arrivant au Québec. Ils peuvent avoir un passé lourd et des défis culturels. Une autre personne qui dit mieux vaut dire qu'on n'accepte pas les réfugiés ou les demandeurs d'asile au Québec que d'ajouter autant d'obstacles devant eux. Même le syndicat de la fonction publique est lui aussi en faveur d'un délai beaucoup plus long que 6 mois pour apprendre le français, parce que là on parle, c'était zéro au début, là c'est le compromis de la CAQ, c'est 6 mois. C'est très généreux. D'autres critiques, le ministre est totalement déconnecté de la réalité des nouveaux arrivants. Il ne fait aucune distinction entre un réfugié et un immigrant économique qui prépare son arrivée depuis des années. Je cite toujours, ces immigrants vont peut-être s'isoler, cette obligation va leur faire peur, ils vont se replier sur eux-mêmes. Et même Gaétan Barrette a dit, cette loi est faite pour mettre en place des règles pour les fonctionnaires, mais en réalité, elle vise à mettre de la pression sur les immigrants.
Ben écoute, même si Gaétan Barrette l'a dit.
Il est porte-parole du PLQ. Et on parle aussi des problématiques d'accès à des cours de francisation. Dans la région de Montréal, le délai peut être au moins de 2 mois, donc il resterait plus que 4 mois aux immigrants pour apprendre le français avant d'avoir des services dans leur langue ou dans une langue ou en anglais, par exemple. Il y a eu plusieurs lettres, plusieurs interventions. En novembre, il y a eu 800 signataires des chercheurs, des professionnels, des intervenants impliqués auprès des personnes immigrantes ou réfugiées qui ont écrit une lettre ouverte. Ils disent que le projet de loi 96 s'appelle la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Donc, le PL 96, son petit nom, portera atteinte à l'accessibilité et à la qualité des services publics essentiels pour les résidents du Québec qui ne maîtrisent pas le français. Même le recours à des interprètes payés par l'État serait prohibé. Hein? Peu de nouveaux arrivants peuvent suivre des cours de francisation à temps plein parce qu'ils doivent travailler, s'occuper de leur famille. Alors, l'apprentissage du français peut facilement s'échelonner sur plusieurs années. Cela peut être encore plus long pour des personnes âgées peu scolarisées ou celles qui portent des séquelles de deuil ou de traumatisme. Instaurer délibérément des barrières linguistiques aura pour conséquence d'accentuer les inégalités sociales et risque de compromettre les droits sociaux, économiques et sociaux de personnes vulnérables. Donc, selon les signataires de la lettre, les intervenants du secteur public devraient avoir la marge de manœuvre d'évaluer la situation de la personne pour décider s'il est indiqué de communiquer avec elle dans une autre langue que le français et au besoin de recourir à un interprète payé par l'État.
Aussi longtemps que nécessaire, d'ailleurs.
Exactement. Puis en général, on sait qu'après quelques années, les gens, en général, parlent français. Les recherches ont montré que les approches linguistiques coercitives freinent l'apprentissage d'une langue seconde et le sentiment d'appartenance à une nouvelle société, en plus de contribuer à des discriminations directes et indirectes. Donc, voilà où c'est rendu. Le projet de loi 96 n'est toujours pas adopté dans son ensemble, mais il y a des amendements ou des articles qui ont déjà été adoptés. Mais ça fait des mois que ça dure. Donc, est-ce que j'ai le temps, Marie-Ève, pour une autre nouvelle?
Oui.
Oui, merci. Quand même importante, ça passait un peu dans le bas, c'était à la mi-février. Le Canada veut accueillir plus de 431 000 nouveaux résidents permanents en 2022. Ottawa revoit ses cibles précédentes à la hausse et souhaite admettre un total de 1,33 million d'immigrants d'ici 2024, donc en 3 ans. La majorité de ces nouveaux résidents permanents arriveront au pays sous la grande catégorie de l'immigration économique par des programmes tels que Entrée Express et aussi par la sélection des provinces. Je cite le ministre Sean Fraser. Nous nous concentrons sur la relance économique et l'immigration est la clé pour y parvenir. On pourrait entendre Jean Boulet. Le nombre d'admissions dans la catégorie des réfugiés est aussi légèrement bonifié en 2022 à cause des 40 000 réfugiés afghans prévus dont tu parlais à l'instant.
Sauf qu'il faut qu'ils arrivent.
Oui, il faut qu'ils arrivent. Donc, le gouvernement va ainsi de l'avant avec des cibles records, malgré des défis sans précédent, a reconnu le ministre. Il a promis au début février de s'attaquer aux délais en immigration, dont un important arriéré de 1,8 million de dossiers en traitement. J'avais pas vu ce chiffre-là.
Moi non plus.
De toutes sortes, là. D'autres problèmes sont dénoncés depuis plusieurs mois, comme des retards dans l'émission des cartes de résidence permanente, ainsi que pour les demandeurs d'asile qui ont travaillé en santé durant la pandémie, le fameux programme aussi qui est en retard. Donc, il a investi 85 millions de dollars pour embaucher plus de personnel. Je voulais vous noter aussi qu'en 2020, il y a eu 184 000 résidents permanents qui sont arrivés au Canada, alors que la cible était de 341 000. Bon, il y a eu la pandémie. Mais pour cette même année, on a compté 326 000 titulaires de permis de travail temporaire au pays, ce qui illustre une autre tendance lourde, soit l'augmentation des catégories temporaires, on en a déjà parlé à l'émission. Les résidents non permanents représenteraient représentait 1,3 million de personnes au 1er janvier 2020. Donc, il y en a eu 326 000 sont arrivés cette année-là, mais tous ceux qui sont là depuis quelques années. Donc, c'est beaucoup de gens, mais qui n'ont pas de statut officiel. En 2021, il y a eu 401 000 nouveaux résidents permanents. La majorité de ces personnes étaient déjà à l'intérieur des frontières sous un statut temporaire et ont accédé à la permanence par divers programmes un peu d'urgence qu'il y a eu parce qu'il y a moins de gens qui arrivaient de l'extérieur. Le record précédent datait de 1913, quand 400 900 nouveaux immigrants permanents avaient foulé le sol canadien pour coloniser, entre autres, l'Ouest. En terminant, je vous suggère un article qui est paru sur dans le magazine L'Actualité le 2 mars. Ça s'appelle « Travailleurs étrangers, le cheap labor du Québec ». On revient un peu sur le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui vont pouvoir être augmentés dans les entreprises. Et il y a des gens de l'IRIS, entre autres, qui interviennent pour parler de cette fameuse tendance-là à l'exploitation de plus en plus grande de travailleurs temporaires qui n'auront jamais accès à la résidence ou à la citoyenneté. Donc, voilà, Marie-Ève.
Bien, merci, Mathieu. On va te retrouver encore plus tard avec l'agenda antiraciste. En attendant, on fait un petit pont musical et il y a Simon qui va venir me rejoindre en studio. Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes. Simon qui vient de me rejoindre ici.
Coucou.
dans le studio. Alors, on va passer les prochaines minutes pour parler d'un sujet récurrent à l'émission, les bavures policières et le profilage racial. Avant de lui céder le micro, vous dire que Statistique Canada a publié récemment les chiffres sur les perceptions et expériences relatives à la police et au système de justice au sein des populations noires et autochtones du Canada. Dans l'ensemble, là, je vous apprendrai pas grand-chose, là, je vous avoue, mais dans l'ensemble, les Noirs qui vivent au Canada ont déclaré faire le moins confiance à la police. Selon les données de cette enquête, c'est l'enquête sociale générale de 2020 sur l'identité sociale. Parmi les Noirs et les Autochtones âgés de 15 ans et plus, respectivement, une et deux personnes sur cinq, soit 21 et 22 % ont indiqué faire peu ou pas confiance du tout à la police, ce qui correspond au double de la proportion observée chez les personnes blanches, qui, elle, est à 11 %. 7 personnes blanches sur 10, soit 70 %, ont déclaré avoir une certaine confiance ou une grande confiance en la police, comparativement à environ la moitié chez les Noirs et les Métis, c'est-à-dire 54 % et 42 % chez les membres des Premières Nations. Comparativement à l'ensemble de la population, les Noirs ont des perceptions particulièrement négative envers la capacité des services policiers lorsqu'il s'agit de traiter les personnes équitablement. On s'en doute. Par exemple, 20 % des personnes noires et 15 % des Autochtones sont d'avis que les services policiers ne réussissent pas à traiter les personnes équitablement, comparativement à 7 % des personnes blanches.
Étrange.
Très étrange. Évidemment, les perceptions concernant la police sont directement influencées par l'expérience qu'on en fait. Et donc, selon les données toujours de l'ESG, mais de 2019 cette fois-ci, sur la sécurité des Canadiens, près de la moitié des personnes noires, soit 46 % ont déclaré avoir été victimes de discrimination au cours des 5 années précédentes, ce qui représente plus du triple de la proportion observée chez les personnes blanches, 16 % Et la situation semble être pire avec le temps plutôt que de s'améliorer, puisque les expériences de discrimination vécues au cours des 5 années qui ont précédé l'enquête étaient plus souvent déclarées en 2019 qu'en 2014. C'est-à-dire 46 % des personnes noires ont déclaré avoir été victimes de discrimination en 2019 par rapport à 28 % en 2014. C'est la même logique chez les Autochtones. Le tiers, soit 33 % ont déclaré avoir été victimes de discrimination au cours des 5 années précédentes. Et là aussi, le même pattern, pire en 2019 qu'en 2014. Plus précisément, 44 % des membres des Premières Nations, 33 % Personnes autochtones ont dit avoir vécu de la discrimination en 2019 alors qu'ils étaient à 23% en 2023. Donc, voilà.
C'est quoi? C'est la police qui est dans le comportement est pire qu'avant? Ou les gens le
c'est
signalent
pas clair.
Plus?
C'est peut-être... probablement que c'est un peu...
pose plus la question, peut-être.
C'est ça. C'est probablement un peu des deux. Donc, à toi, Simon.
Ben c'est exactement dans la même lignée. Donc, on commence avec Mamadi Camara. On parlait de lui lors de la dernière émission. Il recevait sa résidence. Depuis ce temps-là, il y a eu une entente à l'amiable avec la ville qui a été conclue, entente de 347 000 $. Donc, je pense qu'on peut affirmer que le dossier de M. Camara est maintenant clos et qu'il peut se consacrer à bâtir sa nouvelle vie. On le reverra peut-être dans des événements militants ou avec des groupes de défense de droits contre le profilage racial. Je ne serais pas surpris. Parlant de profilage à Montréal, un homme noir moins connu, Errol Burke, qui avait fait une plainte en déontologie contre deux agents, il trouve que leur suspension de 30 jours suite à un verdict de culpabilité, c'est pas suffisant pour casser ce genre de comportement. Mais attention, c'est 30 jours sans salaire.
Oui.
Donc, genre de comportement dont tu as été victime de manière assez violente. Donc, le contexte, on est à NDJ en 2017. Les deux agents cherchent un suspect de 18 ans et ils s'en prennent à M. Burke, 54 ans. On le plaque au sol, on le fouille, on le menotte, tout ça avec les armes pointées sur lui. Finalement, il a pas l'air d'avoir 18 ans. On le libère sans s'excuser.
Excusez, je ris, mais c'est vraiment pas drôle.
C'est ironique. C'est tellement caricatural. Ça n'a aucun sens. Là. Il y avait une histoire semblable à Vancouver avec un juge, je me rappelle, à Stanley Park, qui avait comme 78, puis il cherchait un ado, là, en tout cas. La suspension de 30 jours sera sûrement portée en appel par le Centre de recherche Action sur les relations raciales. Juste pour vous donner une idée de comment on traite les agents reconnus coupables de profilage racial en déontologie, une suspension sans solde de 30 jours, c'est une peine record à Montréal.
Ah oui?
Oui, une peine historique. Autre événement, en 2017 toujours, on est en juin, un homme noir, lui de 28 ans à cette époque, Pierre Coriolan, qui a été tué par les SPVM chez lui. Il y a une vidéo de l'intervention qui a été rendue publique. À la toute fin, en à peu près une minute, les quatre policiers utilisent le taser pendant 36 secondes.
C'est long. Comptez sérieusement à la maison, comptez 36 secondes, c'est long.
Il y en a qui survivent à moins que ça. Là. Ils ont utilisé ça, le taser, le bâton télescopique, des balles de caoutchouc, puis des balles réelles, tout ça en une minute, alors que M. Coriolan était simplement armé d'un tournevis. La semaine passée, le rapport du coroner a été publié. Conclusion, manque de planification, rapidité excessive. On note qu'à l'arrivée des policiers, M. Coriolan était déjà calme, prêt à coopérer, mais que les policiers ont appliqué ce qu'on leur apprend de faire, c'est-à-dire réescalader une crise en criant, en menaçant, en donnant des ordres, pour une situation qui, toujours selon le coroner, aurait pu être désamorcée avec un contact amical et en proposant de l'aide. Dans le rapport, on note aussi que des agents du poste 21 dans l'est du centre-ville de Montréal, probablement le secteur où il y a le plus d'enjeux de dépendance, de toxicomanie, de santé mentale, etc. Ces policiers-là sont toujours pas formés pour intervenir correctement, donc rien de nouveau ici. Ça fait des années qu'on le répète. Mais parmi les policiers impliqués dans cette intervention meurtrière, aucun depuis l'intervention fatale il y a 5 ans n'a eu de nouvelle formation en ce sens. Bref, ça se répète, rapport après rapport. On pourrait aussi nommer Mario Hamel, Alain Magloire, toujours les mêmes recommandations qui sont faites, mais il y a très peu de changements. Pendant ce temps-là, la famille de Pierre Coriolan a reçu une aide financière du gouvernement de 10 000 $ pour être représentée pendant l'enquête du coroner. Et ça a pris une levée de fonds pour financer la cause civile et les funérailles, pendant que la ville, elle dépensait au moins 200 000 $ en frais d'avocat.
Ben oui.
Donc, autre petite nouvelle, il y a les violences par arme à feu qui faisaient beaucoup les manchettes en 2021. Ça tire partout à Montréal. Là, je parle pas des violences policières, mais plus c'est le type règlement de compte, gang de rue, etc. Donc, la réponse à ce phénomène, c'est un forum en ligne le 24 février dernier et deux événements en personne à venir les 17 et 31 mars. Entièrement organisé par le SPVM, le communautaire est supposé être invité, mais la liste des invités dont sont exclus citoyens et journalistes, tout ça, c'est secret et ça se passe à huis clos, complètement à huis clos. Mmh. Il y aura probablement un porte-parole à la toute fin qui va s'adresser aux journalistes pour répondre à quelques questions. Selon le SPVM, un des objectifs du forum, c'est de faire tomber les murs entre la police et les organismes communautaires sur le terrain pour s'assurer de leur pleine collaboration, ce qui fait peur à beaucoup de monde parce que les groupes qui travaillent avec les populations marginalisées ou qui sont victimes de privilèges veulent pas nécessairement collaborer entièrement avec le SPVM pour pas perdre le contact avec les jeunes, pour pas perdre leur confiance.
Ouais.
Réduire donc les dépendances de certains groupes communautaires, on craint même que c'est l'effet contraire à ce qui est recherché, que finalement ça nuise à la prévention de la violence armée chez les jeunes. Voilà pour mon premier bloc profilage, bavure, etc.
Eh bien, on va aller en musique avec une toune de circonstances et on vous revient pour ton deuxième bloc, Simon.
Ou plastique, je ne vois que des déchets à bouteille et les années 30 sont recyclées. Le bruit des boîtes remplace le chant des oiseaux. L'horizon nous laisse voir les raisons de flipper. Quand on aura passé les plus 10 degrés, c'est les sauterelles qui vont nous grand remplacer. Le blanc de la banquise disparaît, celui de la suprématie a tout encrassé sans blaguer. Le fascisme c'est la gangrène. Ouais, on l'élimine ou on en crève. Frère, si je suis sur la défensive, c'est que j'ai mes raisons. L'histoire se répète un peu comme les saisons. Bon, j'ai assez regardé, j'ai assez écouté. C'est à moi de rapper, de clamer mes couplets. T'as pris ta claque et là t'es dégoûté. Y'aura pas le temps pour les débats d'idées quand tout va s'écrouler. Ouais, le capital est totalitaire, pourquoi t'as besoin de preuves? Dans un monde où Amazon n'est plus un fleuve. Un seul bug, une seule étincelle peut mettre le feu aux poudres, donc je mets mon grain de sel. Check, on aura la victoire, que crève ce système d'exploitation. Je veux pas de mise à jour, non. Rien de contradictoire, se mêle amour de l'essence et essence de l'amour. L'amour de l'essence. L'essence de l'amour. L'amour de l'essence. Antifasciste et féministe, si ça te fait plaisir, tu peux me traiter de connard hystérique. Revoir là les soviets, canal historique. Si si je t'assure que l'oppression est systémique. Parole consensuelle et stérile. Pénible d'entendre un discours dénué de conviction. Pas de contestation sans division. Ouais, telle est ma vision. Opinion tranchée et précise. Je représente les gens que j'apprécie. De nos campagnes jusqu'à nos décisions. On prépare le brasier parfait pour l'ennemi. On s'investit avec en mémoire le bruit des cris des camarades frappés dans les cars. Hanté par les violences policières. La milice du capital défend les grands écarts. C'est la vendetta, chacun reprend ses parts. Si on a la rage, il faut nous traiter en clébard. Drapeau rouge, drapeau noir. Loin du cynisme existe un espoir. Quand cette foire ne se présente pas la même vie de Neuilly sur scène à Neuilly-Plaisance. Regardez leur dîner monde à tomber dans l'indécence. Nous, nos cocktails sont faits d'essence. Tolérance depuis tant d'années. Embarqués dans une danse endiablée. Toutes nos aspirations se sont entassées. Mais qu'est-ce qu'on attend pour tout s'enlacer? Sans tarder, fais preuve de franc-parler. Processus entamé, c'est à toi d'embrasser. Le prochain grand brasier, tant sont désemparés. Mais ne t'inquiète pas, on va bientôt tout enflammer.
On vient d'entendre le rappeur français Irascible et la pièce L'amour de l'essence qui est sortie en décembre 2021, mais qui se retrouve pas sur son plus récent album Contes des temps modernes qui est paru en janvier. Je sais pas si vous êtes un peu, si vous venez au courant un peu de ce qui sort dans le rap français, peut-être que vous aurez vu ou non que c'est une reprise ou un clin d'œil critique à la pièce L'odeur de l'essence d'Aurel San, un autre rappeur français.
Qui reflète tous les victoires de la musique.
Oui, c'est ça. Et si vous allez voir le clip d'Irascible de la pièce là qu'on vient d'entendre sur YouTube, vous allez voir un lien vers une vidéo dans laquelle Irascible explique sa démarche et qui le clip en question s'intitule « Aurel San fait-il du rap sans prendre position ?» point d'interrogation. Donc, ça a le mérite d'être assez clair sur l'aspect critique de cette reprise. On poursuit avec Simon et diverses bavures policières et abus de la part de différents corps policiers dans le rock, c'est ça?
On sort du Québec, effectivement. En Ontario, on se rappelle des morts subites d'Autochtones qui font l'objet d'un débat important sur la manière dont on les traite. Par mort subite, on entend tout ce qui sera mort chez le coroner normalement, donc suicide apparent, décès dans des circonstances inconnues, etc. Il y a une région où c'est particulièrement problématique. Le service de police de Thunder Bay avait enquêté sur 37 cas de mort subite depuis le début des années 2000 chez les populations autochtones. Puis le Bureau d'examen de la police de l'Ontario a sorti en 2018 son rapport Broken Trust, dont on parlait, dans lequel il y a toute une série de recommandations. On y parle, et oui, de racisme systémique. On juge que 9 parmi les 37 enquêtes sont tellement bâclées qu'il faut les recommencer au complet. Le coroner en chef de l'Ontario dit que quand la police enquête sur une mort autochtone, on a tendance à écarter les proches de manière systématique, qu'on respecte pas toujours les protocoles et que les processus sont opaques et expéditifs beaucoup plus que pour l'Ontarien moyen. Le bureau chef du coroner va bientôt proposer un protocole plus clair, plus détaillé sur la prise en charge de morts subites dans les communautés autochtones, ce qui était déjà mentionné dans le rapport Broken Trust de 2018, mais ça s'en vient. Le protocole va être publié bientôt. Depuis ce rapport-là, en 2018, qui exigeait la réouverture de 9 enquêtes, on en est maintenant, suite à des réévaluations, à 14 enquêtes qu'il faut réouvrir. 14 enquêtes mal faites sur 37,
ça commence à être beaucoup. C'est plus que le tiers, là.
C'est ça. Les gens s'attendent un peu des autorités à un peu de respect, tu sais, dans le cas d'une mort, d'un proche qui est mort de manière inconnue. En tout cas.
Violente, en tout cas.
Ouais, c'est ça. On va suivre ce dossier-là dans les mois qui suivent parce que c'est pas évident. C'est assez juridico-administratif, mais le coroner en chef ontarien, Dr. Dirk Heuer, je sais pas si je prononce bien, semble assez déterminé pour faire bouger les choses dans l'ensemble d'Ontario, pas juste à Thunder Bay, et peut-être que ça pourrait faire tache d'huile jusqu'ici. Bon, là, on était sur le lac supérieur dans le nord-ouest de l'Ontario. Maintenant, un enjeu fédéral. Début février, le Bureau de l'enquêteur correctionnel Canada, on dit ça vraiment comme ça, c'est le BEC, donc, déposait son rapport annuel. Rapport intéressant qui portait sur le recours à la force, les services correctionnels pour femmes, l'enfermement restrictif et le suicide en milieu carcéral, donc tous des sujets très joyeux. Une des conclusions du rapport, la plupart des objectifs établis en 1990 en matière d'amélioration des conditions des femmes en prison ont tous été abandonnés au profit d'un cadre qui place la sécurité et le contrôle au premier plan des services correctionnels pour femmes. Je parle des prisons fédérales. Sinon, je voulais surtout vous parler de l'autre conclusion marquante du rapport, c'est le fait que les personnes racisées, mais encore plus les personnes autochtones, sont de loin les plus susceptibles d'être soumises au recours à la force. Donc, il y a un lien avec les interpellations puis la confiance à la police.
Tout est dans tout, oui. Ceci explique cela.
Oui, puis ça vaut autant pour les femmes que pour les hommes en milieu carcéral. C'est une étude sérieuse. Le rapport a analysé 10 000 incidents de recours à la force en 2015 et 2020. Donc, le BEC, le bureau... le BEC, bref, parle de racisme systémique, de biais inconscients, de manque de formation, ce qui ressemble aussi pas mal à ce que moi, je parlais tantôt, les conclusions de différents rapports de coroner. Les agents correctionnels doivent être formés un peu comme les policiers, j'imagine, à savoir ordonner, répéter, augmenter le volume et le niveau de menace, agir le plus vite possible, plutôt que de chercher une voie alternative de désescalade en usant un peu de psychologie et d'empathie. L'un des signataires du rapport, Ivan Zinger, suggère fortement à Service correctionnel Canada de reconnaître, comme pour la police de Thunder Bay, le racisme systémique dans les prisons fédérales, comme premier pas, on s'entend, ce que l'agence refuse de faire en rejetant en bloc les conclusions de l'enquête, qui était pourtant très exhaustive.
Un classique.
Ah oui, c'est pas de ma faute. Donc, on se met sur la défensive en disant que la priorité dans les dernières années, c'était de gérer la pandémie. Chercher le rapport.
Elle continue d'avoir le dos large après 2 ans. Hein?
Ah, la maudite pandémie. On saura plus quelle excuse invoquer par la suite. Ce sera la guerre, j'imagine. Donc, réaction rapidement, je finis avec ça. Le Service correctionnel Canada va engager une firme externe pour produire un contre-rapport pour essayer de démontrer que le rapport de l'inspecteur du BEC, merci, a une méthodologie douteuse. Bref, il me restait Repentigny.
On va garder Repent pour une autre fois.
Ça fait 2 fois qu'on le reporte. Écoute, Repent, on va en parler en mars.
La prochaine fois.
On en parle en mars 2022, c'est garanti.
C'est bon. Alors, écoutez, un petit pont musical avant d'aller vers l'agenda antiraciste. Alors Mathieu, tu fais-tu un lien avec ce que Simon vient de parler avec ton premier, ta première suggestion?
Écoute, c'était ma deuxième, mais il y a une date qui s'intitule le 15 mars 2022. C'est la Journée internationale contre la brutalité policière. Ça se passe dans différentes villes, mais à Montréal, le rendez-vous est à 17h30 au métro Lionel Groulx. C'est sur la répression colonialiste, donc cette année. Donc, c'est dans quelques jours, un rendez-vous.
J'ai bien aimé le titre de l'appel, c'est la police, c'est colon en crise.
Oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? C'est très québécois.
Quand un 15 mars à Repentigny? Hein?
À Repent.
Bonne idée, Simon, il faudrait organiser des autobus, par exemple. Donc, sinon, dans l'agenda, ça se passe donc le 14 mars, la veille, le lundi prochain, à Montréal, toujours, au Cheval Blanc, qui est une microbrasserie. Donc, vernissage de l'exposition 2012-2022, 10 ans de lutte. Je lis un extrait de l'appel. Alors que nous célébrons le 10e anniversaire de la grève étudiante de 2012, l'équipe de Dure Réalité de la chaire de recherche en sociologie des conflits sociaux de l'UQAM profite de l'occasion pour souligner le regain de combativité que le printemps érable a donné au Québec. Donc, on parle ici des œuvres de 6 photographes qui, au cours de la dernière décennie, ont ouvert et documenté les différents événements militants de la métropole. Les œuvres de Thomas Ikovits, Isabelle Lévesque, Cédric Martin, Martin Ouellet, André Quéry et Patrick Sicotte seront exposées du 6 mars au 6 avril. On parle de photos, évidemment. Donc, au Cheval Blanc, si ça intéresse les gens. Ils ont un mois pour aller faire un tour. Et le vernissage est lundi prochain, le 14 mars. Sinon, Voix Juive Indépendante, un de mes groupes préférés, organise le lancement de leur nouvelle campagne nationale qui s'appelle Ensemble contre l'apartheid. C'est un événement en ligne parce que c'est pan-canadien. C'est le dimanche 20 mars à 13h. Il va avoir différents conférenciers, conférencières. Diana Boutou, avocate palestino-canadienne qui vit à Haïfa, en Israël. Lee Gazin, qui est députée néo-démocrate pour Winnipeg Centre au fédéral, qui est une ex-leader du mouvement Idle No More. Desmond Cole, journaliste. Et Neta Golan, ça ne s'invente pas, est israélo-canadienne et la cofondatrice du mouvement international de solidarité. Elle vit en Cisjordanie avec son mari palestinien et leurs 3 filles, ce qui est illégal dans les territoires occupés, donc ils ont des problèmes régulièrement pour vivre ensemble. C'est le fun, hein? Sinon, la Semaine d'action contre le racisme, qui est un événement assez institutionnel et international, ça se passe du 21 au 31 mars, c'est la 23e édition. Une semaine d'activités de sensibilisation, on parle d'expo, panel, film, conférence, c'est assez bon, financé par les gouvernements, subventionné. Ça a été lancé pour la première fois en mars 2000, donc la Semaine d'action contre le racisme s'inscrit dans le cadre des événements annuels visant à souligner la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, qui est le 21 mars, ça, qui est quand même un peu plus connu, qui est plus international aussi.
Si on veut avoir une idée là, de l'ensemble de la programmation de ça, on va sur Semaine
d'action contre le racisme, sacr.org, je ne me trompe pas. Okay. Donc, c'est partout au Québec et même au Canada aussi. Sinon, en terminant, Marie-Ève, Le Verger au complet, saison 2, épisode 1, la répression policière contre les travailleuses du sexe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un podcast sur l'abolition de la police et des prisons, fait par la Convergence des luttes anticapitalistes, la CLAC. C'est de retour pour une seconde saison. Il y avait eu 5 épisodes l'année passée sur les enjeux plus généraux, mais là, cette année, c'est sur des enjeux plus spécifiques. Là, le premier, c'est sur les travailleuses du sexe pour la saison 2. C'est une entrevue avec Sandra Wesley, directrice de Stella, un organisme par et pour les travailleuses du sexe qui existe depuis 25 ans, qui est assez connu dans la région de Montréal. Et donc, pour écouter ce nouvel épisode et les anciens, c'est clac-montréal.net et c'est des bons balados, une demi-heure à peu près, c'est bien monté, ça vous tente, et il y a du contenu. Et en plus, c'est le 15 mars... mardi prochain. Et le 1er mai s'en vient aussi tranquillement.
Oui, peut-être dire que le titre de cette série de balados, Le Verger au complet, ça fait référence, en fait, au fait qu'on dit souvent que les policiers, quand ça va pas bien, c'est parce qu'il y a des pommes pourries, alors que la claque, ça fait référence au fait que, non, c'est pas les pommes qui sont pourries, c'est le verger au complet.
C'est le système.
Voilà.
Voilà,
Valérie. Alors, petit marqueur musical. Alors, bienvenue à cette édition des Affaires traditionnelles.
Pour les habitués, ils vont être mêlés, hein? Mais c'est la fin, hein, Marie-Ève.
Ben non, c'est une petite blague. Mais avant de clore votre émission, de notre émission, un petit saut en Irlande rapidement, où le gouvernement a annoncé vouloir régulariser près de 17 000 personnes migrantes, c'est-à-dire tous les sans-papiers qui vivent sur son territoire depuis au moins 4 ans, okay, ou depuis 3 ans s'ils ont des enfants. C'est donc environ 14 000 adultes et 3 000 enfants qui pourraient être concernés par cette mesure, qui quand même est appuyée par 69 % de la population, selon un sondage du Centre irlandais des droits des migrants. Même les personnes déjà sous le coup d'une menace d'expulsion et les étudiants et étudiantes dont le visa est sur le point d'expirer peuvent demander leur régularisation d'ici la fin juin. Donc, cette nouvelle, cette mesure-là va leur ouvrir l'accès à un travail et à une couverture sociale. La seule ombre au tableau de cette mesure-là, ben, ce sont les frais de dossier qui sont très élevés. C'est 550 euros par personne, soit un petit peu moins de 800 $ et 700 euros pour une famille, soit près de 1000 $ Donc, ça risque d'être un frein quand même, là, pour les personnes les moins aisées. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter aussi depuis janvier là sur les ondes FM du 107,9 de Radio Victoria le dimanche à 14h et le mercredi à 13h30. Vous pouvez aussi nous écouter en balado, les émissions que vous avez manquées, par exemple, en vous rendant sur notre page, sur le site de choc.ca ou encore sur notre propre site internet www.apatridesanonymes.info. Vous pouvez nous écrire à apatridesanonymes@resist.ca et nous suivre sur notre page FB.
On fait de l'actualité sur notre page.
Merci Mathieu et Simon pour la pertinence de votre contenu.
Merci à toi pour l'animation, Marie-Ève.
Oui, merci d'avoir parlé de l'Irlande aussi, c'est assez rare.
Oui, c'est ça, je me suis dit.
La grande Irlande.
La grande et belle Irlande, oui. On se laisse en musique avec la pièce Blood Moon de la formation post-metal. C'est rare qu'on en a fait jouer, donc je me réjouis.
Des légendes en plus.
Oui, donc formation post-metal de Boston Converge, qui est tirée de leur dernier album Blood Moon One, qui est paru en novembre 2021 sur la légendaire étiquette Epitaph et qui occupe quand même la première position du palmarès Loud de Choc.
Et c'est avec Chelsea Wolfe, qui est une chanteuse métal gothique assez intéressante aussi, cette collaboration-là pour cette pièce-là. Ouais.
Merci Mathieu de ce complément d'information.
Ça fait plaisir.
Alors, à tous et toutes, bonne soirée et à dans 2 semaines.
Dans 2 semaines.
Bonne soirée.
Bye. The cosmic eye, free of the chains led to final lives, it cuts through flesh and bone, lit to the glow of souls gazing far.